RCF. Inlassable petit pousset voyageur, je récolte les paroles humaines et sème contes et récits de vie, graines d'humanité et graines de mémoire. Ludovic Soliman, j'aime beaucoup cette phrase par laquelle vous vous présentez dans l'une de vos publications. Vous êtes conteur pour les enfants, les personnes âgées, les prisonniers, mais vous êtes aussi un incroyable collecteur d'histoires de vie dans les usines, les banlieues, les bars, ou encore assis sur un banc avec un ancien qui vous partage ses souvenirs, que ce soit ici en Bretagne ou encore en Afrique, un continent que vous aimez beaucoup, le continent des conteurs. Alors Ludovic Soliman, merci de nous accueillir ici, chez vous, près du Cap d'Erquy, en Bretagne. Vous qui avez grandi dans la région parisienne, qui avez travaillé à l'EDF comme ouvrier pendant près de 20 ans, vous vous êtes installé ici dans les Côtes d'Armor, c'est un peu un retour à vos racines familiales?
Les racines, ouais, du côté de mon père, parce que ma mère est du Périgord. Donc c'est aussi d'autres histoires, c'est plein d'histoires à raconter, tout est histoire en fait. J'ai découvert l'histoire des parents parce que mon père était breton, mais lui, il a été abandonné avec ses frères et sœurs. Et il avait le rêve d'être marin comme son père, son grand-père qui avait été Terre-Neuve, ou arrière-grand-père, qui avait fait la grande pêche, qui s'était embarqué. Et comme sa tante qu'il avait recueillie voulait faire de lui un homme d'église, un curé, il était mis au petit séminaire, mais il avait un plan dans la tête. Alors il a mis de l'argent de côté, en cachette, avec des quelques boîtes de sardines, un plan aussi qu'il avait, une carte. Et il avait traversé toute une partie de la Bretagne, il avait réussi d'aller à Nantes, de Nantes à Bordeaux. Et à Bordeaux, il voulait se faire engager sur les cargos, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'il a été repéré. Mais il avait inventé tout un mensonge avec une fausse adresse. Il a fait croire qu'il vivait chez une tante, mais là-bas. Et quand les gendarmes lui ont dit « où tu vas ?» comme ça, parce qu'il se présentait à chaque bateau. Donc à un moment, les gendarmes ont été appelés et ils l'ont amené devant la fameuse adresse. Et puis là, il a dit « je vais vous dire la vérité ». Il dit « en fait, je suis orphelin de guerre ». Ce qui n'était pas vrai. Il avait été abandonné. Et là, il était donné devant un juge, mais il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Donc le juge l'a cru, il a dit « qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Et la secrétaire du juge a dit « moi j'ai ma mère qui vit dans un petit village, là, dans le Périgord, il y a un couple de paysans qui aurait besoin de bras. » Le juge lui dit « est-ce que tu vas aller travailler chez ces paysans, là, dans ce petit village ?» Et mon père a dit « oui, c'était le petit village où était ma mère. »
Et c'est là où il a rencontré votre mère. Alors j'aime bien, là tout de suite, on sent que toutes les vies sont des histoires pour vous. Là, vous me racontez l'histoire de votre père, d'une manière d'un conteur. Et j'ai l'impression que chez vous, toutes les vies, et notamment je l'ai vu dans ce livre que vous aviez publié en 2011, Les mille et une vies, chaque vie est belle, chaque vie est précieuse, chaque vie a quelque chose à nous dire d'intense, de profond. Il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de grande vie, il n'y a pas de grande histoire, il n'y a pas de petite histoire.
Et dans chaque vie, il y a des histoires, il n'y a pas une histoire. C'est pas l'histoire d'une vie en fait qui m'intéresse, c'est les histoires des vies. Dans chaque vie, il y a plein d'histoires. C'est ça que j'ai appris. La vie m'a appris à chercher des histoires. Moi, je me vois souvent comme un chercheur de pépites. C'est Henri Gougaud aussi qui m'a amené là aussi, parce que je me suis aperçu que cet homme, il donnait beaucoup.
Alors Henri Gougaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand conteur, c'est un des plus grands conteurs français.
Voilà, c'est un monsieur qui a donné beaucoup aux contes, parce qu'il a repris des histoires, et il leur a donné un goût particulier dans son écriture, dans sa langue aussi, et dans l'émotion qu'il a réussi à véhiculer avec des contes. Ça faisait très longtemps que personne n'avait réussi à donner autant d'émotions humaines à travers des contes.
C'est un homme qui a beaucoup compté pour vous. Il vous a mis le pied à l'étrier quelque part, non?
Alors,
pour oser être conteur.
Non, c'est une rencontre sur le chemin du conte. Moi, j'étais sûr de moi, j'étais plein de certitudes. Et il m'a amené à un endroit où justement je me suis rendu compte que j'avais tout faux. Je me trompais complètement. Et notre rencontre a été assez, brutale, parce qu'au départ, moi, je l'ai heurté frontalement. Ça a été comme deux béliers qui se donnent des coups de tête, quoi. C'était un peu ça, au départ. Je vous raconterai pas l'anecdote, mais... Et après, justement, pour résumer, mais le jour où je l'avais rencontré, c'était à Paris, on m'avait demandé de venir le voir, à son atelier, donc j'étais venu, et puis j'avais écouté, mais toute la journée s'était passée et je m'étais en fait assez ennuyé et je voyais pas l'intérêt d'être là, sauf qu'à un moment il y a eu quelqu'un qui a raconté une histoire, lui il a fait un retour et bêtement, je me suis levé, je suis intervenu en disant que j'étais pas du tout d'accord avec lui. Et là, ça a commencé. Moins que ça se fait pas. En plus, il y avait des gens qui venaient de partout. Et j'ai vu que j'ai dit quelque chose, parce que lui, il m'a dit quelque chose, j'étais pas d'accord avec lui, je me suis retrouvé dans un conflit. Et je me suis rendu compte que je lui ai fait mal, dans ses yeux. Et je me suis dit, mais t'es bête, comment tu oses faire ça? Tu viens pour la première fois, il y a des gens qui viennent de partout pour l'écouter, et toi, tu...
Vous étiez tout jeune, un débutant.
Moi,
et lui,
je n'étais pas un débutant compteur, parce que je faisais beaucoup de projets déjà sur le collectage. C'est pour ça qu'il avait eu envie de me rencontrer. J'avais mon chemin de compteur, qui est un chemin un peu particulier, parce que moi, j'ai
pas suivi. Mais lui, c'était la référence. Vous étiez tout jeune.
Tout
lui,
à fait.
C'était l'ancien.
Voilà. Donc, et à partir de là, je me suis tué. Puis, la nuit suivante, en fait, j'étais réveillé par Henri Gougaud. J'étais dans mon sommeil, dans mon lit, et j'ai entendu sa voix. Et sa voix répétait sans arrêt une phrase qu'il avait dite la veille, qui était « On ne parle à l'autre que de l'endroit où on est à l'intérieur de soi ». Cette phrase, il l'avait dit le matin parmi énormément d'autres phrases. Et je me suis rendu compte que cette phrase, elle n'arrêtait pas de tourner. Et plus elle tournait, plus elle prenait d'importance dans mon esprit.
Vous pouvez la répéter ?
On ne parle à l'autre que de l'endroit où l'on est à l'intérieur de soi.
Et comment vous avez reçu ça ?
Comme un choc. Ça a été ultra violent. Ça m'a fait pleurer parce que je me suis rendu compte que j'étais pas forcément au bon endroit à l'intérieur de moi quand je parlais aux autres ou quand je les écoutais, puisque écouter, c'est une parole, l'écoute. Donc ça m'a énormément transformé, je peux dire. Et ça a duré pendant des jours et des jours, des semaines et des mois. Cette phrase, c'est devenu un mantra, quoi.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors Ludovic Soliman, ce qui est intéressant chez vous, dans votre parcours, c'est que vous n'étiez pas prédisposé à être conteur, et vous avez même eu une vie avant d'être conteur, pendant 20 ans pratiquement, ouais. De 18 ans à 37 ans, vous avez travaillé à l'EDF comme ouvrier, pas du tout dans le monde du compte. Alors expliquez-nous ce que vous a apporté cette première expérience de vie, pour ensuite devenir le conteur que vous êtes devenu.
Alors, il faut regarder aussi d'autres choses. C'est que moi, quand je suis arrivé, il fallait que je parte de chez moi jeune. J'ai parlé un peu de mon père, mais en fait, c'était très dur à la maison, donc il fallait que je m'en aille. Et donc, à 16 ans, moi, j'ai quitté domicile familial et je suis rentré là où je pouvais aller, dans une école des métiers. C'était la solution pour moi, donc je suis rentré en internat à EDF. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais faire. Bon, je faisais... comme tout le monde, en fait. On fait ce qu'on nous dit de faire. On ne demande pas d'être. Mais néanmoins, avant, j'avais été marqué par une rencontre très, très importante qui, je pense, est celle qui est déterminante par rapport à ce que je suis, avec un homme en sixième. Il s'appelait Monsieur Moffray, parce que moi, quand je suis arrivé en sixième, nous, avec mon frère, on était des enfants très violents, très bagarreurs. Mon père était dur, nous, on était durs, on était violents. On avait une réputation de gamin à très fréquenter. Moi, c'est d'autres personnes qui m'ont raconté ça après, qu'il fallait pas nous voir, les souliments, fallait pas leur parler, parce qu'on se bagarrait tout le temps. Et quand je suis arrivé en sixième, j'étais nul en français, j'avais jamais lu de livre. Moi, on m'avait mis dans une classe de sixième avec un professeur de français qui avait une réputation d'être très sévère, très dur. Alors, moi, j'étais dans mon coin, mais j'avais toujours du mal à me tenir en classe, en fait. Et tout d'un coup, cet homme, il commence à dire que cette année, on allait étudier la poésie. Arthur Rimbaud. Et il commence à dire une poésie d'Arthur Rimbaud avec les gamins, le cul à l'air, là, au-dessus de regardant le pain qui sort du fourneau, et puis comme un saint tout chaud, tout ça. Bon. Et à la fin, M. Moffray dit, qui parmi vous connaît Arthur Rimbaud? Alors évidemment, en classe de sixième, personne ne lève la main. Si, moi, je lève la main et je dis moi. Et M. Moffray me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu connais d'Arthur Rimbaud, Ludovic? Et là, je lui raconte toute la vie d'Arthur Rimbaud.
Comment vous la connaissiez?
Je raconte tout. Je raconte les Ardennes, Charleville-Mézières, sa sœur, sa mère, la neige, le lycée, la fugue, Paris, la commune. Je raconte, raconte, raconte. Mais je raconte tout. Le coup de pistolet, je raconte l'Afrique. Et je vois cet homme, je revois, là dans mon souvenir, je le revois, qui était complètement stupéfait. Et à la fin, il dit, mais comment
tu sais tout ça,
hein, Ludovic? Je lui dis, j'ai regardé un film à la télé, monsieur. Il me dit, mais il y a longtemps. Je lui dis, je sais pas. Et en fait, lui, il a compris que moi, j'avais une mémoire particulière. Et il m'a dit, c'est très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter un autre film une prochaine fois? Oh, j'ai dit, si vous voulez, j'adore la télé. Donc moi, je regarde la télé.
Vous lisiez pas à l'époque?
J'avais pif.
Ouais.
Et donc, me v'là à lui raconter un autre film, puis un autre film. Puis un jour, il me dit, bah, Ludovic, à la fin du cours, tu viendras avec moi. Donc, je le suis. Il m'amène à un endroit que je ne connaissais pas. Ça s'appelle une bibliothèque. Et il me confie une dame en lui disant, je vous présente Ludovic. Mais avant, ah si, il faut que je raconte une histoire quand même. C'est que lui, à la fin d'un cours, où j'avais raconté une histoire de la télé, il me donne un livre. Il me dit, je voudrais que tu racontes ce livre comme tu as raconté un film. Sauf que moi, j'avais jamais lu le livre, mais j'ai pas osé lui dire. Alors, j'ai eu du mal. Et c'était la véritable histoire d'Hélène Keller, sourde, aveugle et muette. Gallimard, mille soleils. Et je revois le livre. Et là, je rentre dans ce livre.
Et là, en fait, vous découvrez la lecture.
Oui, mais c'était une histoire très particulière. C'est l'histoire de cet enfant qui n'a pas d'humanité. Elle est enfermée dans un monde de violence. Et il y a une femme qui va arriver, qui va l'éduquer, qui va la faire accéder à la parole, aux mots, grâce à un langage qui est celui des mains, en tapotant dans les mains. Elle lui fait articuler les mots, elle lui fait comprendre les sons. Et en fait, Hélène Keller avait un esprit très puissant et elle va rentrer dans le langage. Et à partir de là, elle s'humanise complètement. Et moi, cette histoire... Ben, je la lis, je suis marqué par cette histoire, je la raconte en classe, et c'est là où il m'amène à la bibliothèque, et à partir de là, je découvre le monde des livres. Mais non seulement ça a été fondateur, parce que cette femme, elle me dit, qu'est-ce que t'aimes lire? Mais moi, j'avais lu qu'un livre, donc je lui dis, la véritable histoire d'Hélène Keller, sur David. Elle me dit, mais c'est une histoire vraie. Elle me demande, est-ce que t'aimes les histoires vraies? Alors j'ai dit oui. Et elle vient me chercher un livre, elle me ramène Les Frères de Soledad, et donc c'est George Jackson. Et c'est un livre sur les Black Panthers aux États-Unis. Et en sixième, tu lis pas ce genre de bouquin. Un mec a écrit des poèmes, qui a été assassiné après par la police américaine.
Alors quand je vous écoute, Ludovic Suliman, j'ai l'impression que chez vous, c'est comme des poupées russes. Là, vous en ouvrez une, puis une autre, et une autre. Et vous pourrez me raconter des histoires comme ça. Et toute votre vie, elle est faite comme ça d'histoires. Mais alors moi, je vais revenir quand même. Parce que il y a cette période de vie à EDF.
Oui.
Et ça, je veux qu'on en parle, parce que avant que vous soyez conteur, vous avez travaillé comme ouvrier, et physiquement, puis avec des hommes, des ouvriers, des rudes, des anciens, qui
vous
ont marqué.
En plus dans les équipes travaux, dans les métiers durs, en plus à l'époque à EDF, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était vraiment physique, on était nombreux. Après tout ça, ça a été démoli, on a supprimé toutes ces équipes. Donc moi j'ai découvert un autre monde, j'ai découvert ce qu'on appelle la culture ouvrière, et l'éducation populaire, je savais pas ce que c'était. Et des hommes que moi j'étais anti, j'étais plutôt anti-syndical, anti-CGT, anti-tout quoi, j'étais une espèce d'anard sans le savoir quoi. Par contre ces hommes ils m'ont toujours soutenu, il y a une solidarité énorme, parce que comme j'ai toujours eu ces problèmes, de peut-être à l'école on me disait insolent, mais au travail on n'aime pas trop les gens qui tiennent tête, donc j'avais toujours ce caractère de tenir tête, de jamais baisser la tête, et donc je me suis retrouvé protégé par des gens. Moi, je me rappelle, j'étais dans un petit appart, j'avais rien. Je dormais par terre, c'était même pas un matelas. J'avais des cartons, j'avais mes bouquins déjà à l'époque, puisque c'était ce qu'il y a de plus précieux pour moi, les livres. Donc j'avais le seul meuble, c'était une bibliothèque. J'avais même pas de chaise. Et donc, j'étais là. J'avais le frigo que m'avait donné ma mère, parce que mon père, il voulait rien me donner, ma mère. J'avais un frigo, c'était... Et il y a un gars qui vient me chercher. Ben, un de ces gars dont je parle, là, pour le boulot, parce que je travaillais aussi des fois de nuit, il rentre. Il dit, mais tu viens d'aménager? Je dis, non. Il dit, mais t'as pas de meubles? Je dis, bah ouais. Et il dit rien. Et trois jours plus tard, ils sont venus. Et ils m'ont amené un lit, ils m'ont amené une table, des chaises, ils m'ont amené... Mais sans rien dire, comme ça. Comme pour eux, c'était normal, quoi.
La solidarité. Ouais.
Voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est pas des discours, c'est des actes. Et ces gens-là, moi, m'ont convaincu qu'il y avait, voilà, il y avait quelque chose de fort, là.
Et puis, ceux qui vous ont marqué aussi sont les anciens.
Oui.
Vous avez écouté les histoires des anciens du monde ouvrier, alors les anciens de l'EDF, mais vous avez rencontré aussi d'autres ouvriers.
Bien sûr. Alors en fait, c'est pareil, ça a été un choc, parce qu'on ne sait pas. Moi, je ne savais pas tout ça. Mais comme j'ai voulu aussi m'engager, être comme ces hommes qui étaient comme... Moi, je les voyais comme des chevaliers. Hein. Il y a un côté très viril aussi hein, dans l'action syndicale, mais chevaleresque, on défend, on est des défenseurs, on est des protecteurs. C'est quelque chose de très noble, en fait. Mm-hmm. Donc, j'ai voulu devenir militant, mais pour devenir militant, bah, il fallait le mériter. Il fallait être impeccable au travail, toujours à l'heure, qu'on puisse rien te reprocher, sinon c'était un point faible. Et c'est ce qu'on disait dans l'éducation syndicale. Donc, il fallait être exemplaire dans ton travail. Non seulement ça, mais il fallait aussi savoir des choses. Et donc, on devait... C'était obligatoire. Tous les mois, on rencontrait les anciens. Ils venaient nous parler. Alors bon, bah, moi, j'étais tout jeune.
Et ils racontaient à la fois leur militance, mais aussi leur métier.
Ils racontaient tout, ils racontaient leur vie. Par exemple, je donne un exemple qui est dans ce livre, s'appelle « On n'est pas là pour rien ». C'est tout un collectage que j'ai fait, mais pour moi au départ, puis c'est devenu un livre après, encore grâce à une rencontre avec un homme qui a dit qu'il faut absolument faire quelque chose de tout ça. Et donc en fait...
C'est Dédé Machelard, non ?
Ouais, Dédé Machelard, c'est ce bonhomme.
Il faut le nommer quand même, c'est un chauffeur de four.
Ouais, un ancien chauffeur de four.
On ne sait pas ce que c'est les chauffeurs de four aujourd'hui. Hein.
Bah non, parce que aujourd'hui, on fabrique plus de gaz, mais c'était ce qu'on appelait les usines à gaz. Il y avait d'énormes usines à gaz autour de Paris, parce qu'il y avait de plus en plus de demandes de gaz. On fabriquait à partir de ce qu'on appelle le charbon.
Le charbon.
Ouais. Et donc le gaz. Et donc ça donnait lieu à plein de résidus, plein de gaz qui étaient collectés. Et c'était un métier hyper pénible, hyper dur. L'espérance de vie des chauffeurs de four dépassait pas 50 ans. Mmh. Et c'était beaucoup de Bretons. Et ça aussi, ça m'a ramené à la Bretagne, parce qu'ils savaient pas parler français. Ils bretonnaient. Ils étaient entre eux.
Travailleurs immigrés de cette époque-là, et cette époque, c'est pas si vieux, c'est les années 60, 70.
Et là, c'est même juste, non, c'est juste après la guerre. Là, on est vraiment les années 45, 50, et on va faire venir massivement des quarantiers de Bretons. Et après, dans les années 60, vont arriver évidemment...
Les Algériens.
Et les Algériens qui vont aussi arriver. Parce que là, ils savaient déjà qu'ils allaient fermer les usines à gaz en 60. Donc à partir du moment où ils savaient qu'ils allaient fermer, ils n'embauchaient plus du tout de gens...
Et là, vous avez commencé à recueillir la mémoire de ces chauffeurs de four.
Ouais, alors je l'ai fait inconsciemment. C'est-à-dire que j'ai noté pour moi, je notais. Je savais que c'était précieux, la parole qu'ils avaient, ces gens-là. Et puis comme cette parole, je la trouvais pas nulle part, elle était pas dans les discours. Elle était pas dans la parole des historiens, parce qu'en tant que militant, on a eu une éducation politique très très sérieuse. Donc j'ai fait plein de formations d'économie aussi politique, d'histoire. Donc on avait tout un tas de formations, mais moi, ces paroles qui m'avaient fondé, elles étaient pas là-dedans.
D'où le titre, là, « On n'est pas là pour rien ». C'est Dédé Machelard qui vous a dit ça.
Il faut pas oublier
ce qu'on a vécu.
Dédé Machelard, il a dit ceci, c'est que ça, je me rappelle, parce que moi, quand j'ai quitté EDF, j'ai vidé mes casiers, comme je dis, et j'ai vidé ma vie, quoi. Et j'avais des dizaines de cahiers que j'avais écrits. Mais moi, ces cahiers, c'était comme des cahiers d'école syndicale. Et donc, je jetais mes cahiers. Et en les jetant, je les feuilletais. Et tout d'un coup, je vois ce cahier, les pages qui défilent devant moi. Et arrive un moment, la parole de Dédé que j'avais notée, où il racontait la vie des chauffeurs de four. Et moi, j'avais retranscrit une partie de ce qu'il racontait, comme je faisais à chaque réunion. Et je retranscrivais ce qu'il racontait, comment ils se protégeaient, comment ils avaient des sabots, comment ils faisaient cuire leurs patates. Là, sur la grille, sur le plancher où ils avaient les pieds posés, il y avait la patate qui cuisait, les planchers étaient à 60 degrés. Et ils marchaient là-dessus, et après, un médecin de travail m'a raconté que les mecs, ils étaient cuits comme les patates. C'est pour ça qu'ils mouraient très jeunes. Et Dédé Machelard, il raconte tout ça, moi je note un peu, et à la fin, je me rappellerai toujours, parce qu'il s'est tourné vers moi, c'est un vrai titi parisien, Dédé Machelard, petite casquette, il est toujours un mec au coin de la bouche, et il me regarde avec des petits yeux bleus, il me dit, mais les gens ne peuvent pas se rendre compte de tout ce qu'on a vécu, mais qui racontera tout ça aujourd'hui, hein, qui, il me regarde, moi je lis cette phrase, qui racontera tout ça, hein, qui, et j'ai dit, à voix haute, moi, je vais le raconter. Et je jette le cahier, je jette ma vie d'avant, je jette mes bleus, parce que j'ai toujours vécu en bleu pendant des années. L'ouvrier, c'est quelqu'un qui vit en bleu. J'avais mes bleus au boulot, mais je les avais aussi en dehors, souvent. Et je me suis mis à chercher la parole des chauffeurs de four. Et c'est là où je me rends compte qu'ils étaient presque tous morts. Mais ça m'a emmené de fil en aiguille à rencontrer des gens que j'aurais jamais dû rencontrer, d'anciens déportés. Puis après, à élargir ça, parce que je reçois de la parole, mais je faisais ça pour moi. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et parallèlement à ma vie de conteur, où pour moi, ma vie de conteur n'avait rien à voir avec tout ça. Je racontais pas tout ça. Ça, c'était pour moi. Je sais pas comment vous dire. Comme un grenier qu'on remplit, comme je disais tout à l'heure, Henri Gougou qui me disait, mais ton grenier est plein. Je dis, ouais, mais je continue à amasser du grain humain, parce qu'on a besoin de bonnes semences, quoi. Il faut cultiver la terre humaine.
Alors Ludovic Suliman, j'imagine que ça n'a pas été facile pour l'ouvrier engagé à l'EDF, le syndicaliste que vous étiez, de faire ce pas, de quitter un métier assez sûr, et puis rentrer dans le monde du spectacle, je le mets entre guillemets, pour devenir conteur, pour être intermittent du spectacle. Quitter ce monde ouvrier, comme vous l'avez fait, pour devenir conteur, qu'est-ce que ça exigeait chez vous ?
Alors, c'est sûr que c'est marrant, les gars, ils disaient, mais voilà, qu'il ne fallait surtout pas le faire. Que c'était n'importe quoi. Mais en même temps, moi, je sentais qu'il fallait que je le fasse, parce que si je ne le faisais pas, j'allais le regretter.
En quoi c'était fort ? En quoi ça vous a...
En fait, moi, j'ai vécu une période très sombre, un moment où il y a eu des suicides, il y a eu des grèves très dures, j'ai été sanctionné, plein de gens ont été sanctionnés. On a vécu, en fait, une forme de maltraitance. Et ça apparaissait nulle part dans les médias. Et quand on parlait des gens qui se battent, on les passait pour des sauvages, des barbares, alors que nous, on avait l'impression d'être du côté du cœur, du côté de la justice tout le temps, et on était à chaque fois salis, quoi. Et non seulement ça, mais on était ensuite, il y a eu des sanctions, puis il y a eu des suicides. Donc, très proche, moi, dans je travaillais, il y a eu deux suicides, une femme qui travaillait à l'étage au-dessus, voilà. Et je devenais violent dans mon esprit, et j'avais des idées très violentes, et ma vie de conteur avait commencé depuis des années. Moi, dès le départ, je suis devenu conteur EDF, hein, dans les œuvres sociales. Je travaillais avec le Mouvement de la Paix, Albert Jacquard. Je travaillais avec l'Institut Hiroshima Nagasaki. Et donc, j'ai fait les comptes pour la paix, les comptes
en parallèle de votre métier.
J'étais ouvrier conteur, moi. J'ai fait ça pendant des années. C'est pour ça que mon expérience de conteur a commencé. J'avais 22 ans. La passion du compte est née là. Ce sera une autre histoire à raconter. Comment c'est né. Parce que c'est vrai que, on dit la vie est faite de rencontres. Mais ce qui est important, c'est que ces rencontres, on les rate pas, quoi. Donc c'est vrai que ça a été très violent de faire partir, mais je sentais que si je partais pas, j'allais, moi, me détruire, parce que je devenais violent. Et que le seul endroit où il y avait la lumière, c'est quand j'étais dans les contes avec les enfants. Et je parle pas des récits, là, parce que je racontais aux gamins, j'avais eu mes enfants, c'est mes enfants qui m'ont appris le pouvoir des contes. Et ce délire, parce que délire, ça veut dire délier, libérer. Donc je libérais une parole grâce à un conte. Et moi, mon imaginaire, voilà, il explosait dans tous les sens, et c'était une jubilation, quoi.
Et le conte vous faisait du bien en même temps. Vous faisiez du bien autour de vous en comptant, mais ça vous faisait du bien de compter.
Ah oui, oui, bah le conte fait du bien à celui qui écoute autant qu'à celui qui raconte. Ça, c'est une parole d'ailleurs acidique, hein. C'est une parole, voilà, d'un vieux rabbin où on demande en fait. Comment il faut raconter les histoires ? Et il répond à son petit-fils alors qu'il est paralytique, aveugle. Et donc, il lui dit, il faut raconter les histoires pour qu'elles agissent sur celui qui raconte comme sur celui qui écoute. Le petit-fils ne comprend pas. Et le grand-père lui dit, écoute, si ton histoire se met à chanter, chante. Et voilà son grand-père qui se met à chanter avec une voix de jeune homme. Il dit, si ton histoire se met à danser, danse, et il voit le grand-père qui se lève de son fauteuil, qui se met à frapper des mains, à danser, à tournoyer, comme s'il avait 20 ans. Et à la fin, le grand-père lui dit, tu vois, tu dois raconter une histoire comme ça pour qu'elle agisse sur celui qui écoute comme sur celui qui raconte. Donc, évidemment, le conte, il agit sur nous. Et après, c'est toute une initiation qui nous emmène à... Dans les contes, on apprend beaucoup sur soi. Mais on ne sait pas au départ, finalement, pourquoi on raconte telle histoire. L'histoire, elle va se révéler à nous. Par des chemins détournés. Parce que on pense que quelque part, c'est notre histoire, on se l'a appropriée. Non, non, l'histoire, elle rentre en nous, en fait. Et elle fait partie de nous, mais c'est pas notre propriété. Elle nous utilise. Parce que Henri Gougaud dit toujours, les contes sont des êtres vivants. Ils passent par nous. Et donc, c'est cette idée comment nous, on arrive à se relier dans les contes et comment nous, finalement, on arrive aussi à relier une partie de notre vie, à nourrir le conte. Le conte nous nourrit et on nourrit le conte.
C'est intéressant que vous nous ayez parler de cette dimension de violence qui était en vous, parce qu'aujourd'hui, quand on vous écoute, on sent que ce que vous voulez, c'est apporter la paix par les contes, apporter de la paix, apporter de la reliance, mais une reliance entre les humains, dans toutes leurs différences, pour apporter de la paix. Je me trompe
Ah non,
que
non,
je vous ai
moi,
lu en spectacle, je vous ai lu.
Ouais, je suis vraiment quelqu'un de très engagé sur la question de la paix. La paix, ça s'apprend. On est dans une éducation de la guerre, de la peur. Et je crois qu'au contraire, le conte, voilà, il met de la lumière. Il y a ce tout petit conte de Nasreddin, souvent, on le prend un peu comme une blague.
Souvent pour une sorte d'humoriste, sage humoriste, Nasreddin.
Ouais.
Avec des blagues, des histoires drôles.
Il y a des centaines d'histoires, mais dans ces histoires, il y a des choses cachées. Il y a une petite histoire très très courte, je vais me permettre de la raconter très rapidement. C'est Nasreddin, c'est le soir, c'est la nuit, et il est là à chercher quelque chose, et puis il y a son voisin qui le voit juste devant la fenêtre de chez lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Nasreddin? Et Nasreddin dit, ben, je suis en train de chercher ma bague, j'ai perdu ma bague, alors je la cherche. Alors le voisin dit, ben, attends, je vais t'aider. Alors le voisin qui sort, puis les autres voisins qui sortent, tout le monde se met à chercher la bague de Nasreddin. Et tout le monde cherche. Il dit, mais t'es sûr que tu l'as perdu là? Et Nasreddin dit, ah non, j'ai dû la perdre par là-bas. Il dit, mais pourquoi tu cherches ici? Et Nasreddin il répond, parce que ici, il y a de la lumière. Et le conte s'arrête là. Et ce conte qui peut paraître un peu absurde, ben non, il faut chercher là où il y a la lumière. Et cette idée de la paix, de ce qui nous éclaire, je crois que le conte, il met de la lumière là où vraiment ça nous permet d'éclairer le chemin là où on est. C'est pareil, je vais reciter Henri, mais ça va être vraiment Henri la référence Gougou, ce soir.
Ouais.
Il dit, voilà, le conte, c'est pas le chemin. C'est pas le chemin, le conte. Mais le conte, c'est une petite lanterne qui permet d'éclairer un peu le chemin.
Comment vous la définiriez, justement, la fonction du conte, le rôle du conte? Parce que c'est immense comme question.
Je pense qu'il n'y a pas une fonction, il y a beaucoup de choses qui se... Le conte, il est utile à plein de choses, on pourrait dire. Hein. C'est Amadou Ampateba qui parlait que le conte, il est utile et futile et qui s'adresse aussi bien, eh bien à la femme qu'à l'homme, à l'enfant qu'au vieillard.
Et il enseigne à tout âge.
Il enseigne à tout âge. Et il y a Suzy Platiel, vraiment, c'est une grande dame, une amie qui est décédée au mois de mars. Et cette dame... En fait, elle-même, elle a consacré sa vie à comprendre ça, cette question. À quoi sert le conte?
Mais elle a cherché d'abord en Afrique, parce qu'en Afrique, on a l'impression que le conte est beaucoup plus pris au sérieux qu'en Occident. Chez nous, le conte, souvent, c'est pour les enfants. En Afrique, c'est une transmission de sagesse. C'est presque initiatique, le conte, en Afrique. Pas chez nous. Plus chez nous.
Ah ben nous, ça s'est perdu. Il y a eu vraiment des traditions de contes très très fortes, notamment en Bretagne ici, et pas si longtemps que ça. Mais bon, on va pas parler de la Bretagne puisqu'on parle de l'Afrique.
On en parlera tout à l'heure, peut-être,
mais
de la Bretagne.
C'est vrai que la chance qu'elle a eue, c'est d'arriver découvrir le conte dans des sociétés de tradition orale et de l'étudier et d'avoir été acceptée parce que elle-même, c'est une femme qui à un moment s'est mise à un endroit de la parole où elle a été acceptée parce qu'il y a des fois des scientifiques qui viennent, mais ils peuvent pas découvrir les choses. Parce qu'ils viennent avec un savoir sur ce qu'ils vont apprendre. Alors qu'elle, elle est venue et elle a découvert qu'il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Comment une communauté éduque des enfants sans jamais crier, sans jamais les taper? Et que le seul moyen de corriger l'enfant, c'est la parole. Et que le conte, c'est l'outil principal d'éducation. Et que dans des sociétés sans écrit, il y a des mémoires de 300 contes de pratiquement toute la communauté. Mémoire des chants, mémoire de plein de choses. Donc,
et tout le monde les connaît, tout le monde, à tout âge.
Ouais, il va y avoir il y a une connaissance. Et après, il va y avoir des gens qui vont avoir un certain talent, qui vont être reconnus dans leur talent de conteur. Ceux-là, on va aller les écouter parce qu'ils racontent bien, comme on dit. Mais tous les enfants vont apprendre en racontant à leur tour. Donc, elle va découvrir tout ça. Elle va chercher. Et puis après, elle va transmettre cette idée que le conte, c'est un outil d'éducation et d'humanité. Parce que elle, tout son travail, c'était de se rendre compte en tant qu'ethno-linguiste qu'on vit dans une société de communication de plus en plus indirecte et que ce qui fait la relation humaine complète, c'est la parole. Mais la parole complète, elle passe par un interlocuteur qui peut réagir et qui interagit par une tête qui bouge, des yeux qui lancent des messages, par des gestes et que cette parole complète, elle est essentielle. Mais que nous, on vit dans une société où le téléphone, les écrans, fait qu'on est de plus en plus dans des modes de communication indirecte. Il y a des gens qui téléphonent. Moi, c'est ce que j'ai vu l'autre fois. Enfin, je vais raconter une anecdote, mais moi qui m'a choqué. Je vais aux toilettes dans une grande surface. Là, il y avait une espèce de toilette. Là, j'y vais. Puis il y a un homme qui parlait à côté de moi. Et puis en fait, il était en train d'être aux toilettes à côté de moi dans des urinoirs. Il parlait à quelqu'un. Mais ça m'a choqué, moi. Bon, ça paraît bête ce que je dis là, mais on est dans ce monde-là, quoi, complètement aujourd'hui.
Thank you.
RCF.
Je sais, Ludovic Soliman, que vous aimez beaucoup l'Afrique. Vous y êtes rendu à plusieurs reprises, notamment l'Afrique de l'Ouest, où il y a toute une tradition vivante encore de contes. Qu'est-ce que vous avez reçu dans ces différents voyages que vous avez vécu en Afrique, qui accompagne le conteur que vous êtes aujourd'hui?
Alors, j'ai reçu énormément. C'était un immense cadeau. Grâce à Hassan Kassi Kouyaté, qui est un grand, grand homme, le fils de Sotigui Kouyaté, une lignée de griots, très connue, justement.
Alors, les griots, faudrait expliquer rapidement ce que c'est. C'est vrai que ce sont...
Les griots, ce ne sont pas les conteurs. Souvent, on dit, c'est les raconteurs d'histoire. Ce sont vraiment les porteurs de la mémoire. Les véhicules de la mémoire, les messagers de la mémoire. Et il va y avoir, en plus, chez les griots et les femmes griottes qui, par le chant, ont la puissance supérieure à toutes les voix.
Souvent, ils s'accompagnent d'un instrument pour...
Voilà, eux, donc ils vont chanter, ils peuvent faire des louanges. On dit aussi, c'est des flatteurs. Ouais. Et ils vont chanter à l'oreille des rois, mais c'est eux qui vont connaître toute la généalogie des familles. Et donc, ils vont être présents à plein de moments de la vie, hein, qui peuvent être des moments de chant de travail. Donc, il y a différentes familles de griots, bon, peu importe. Mmh. Mais moi, ce que j'ai reçu là-bas, déjà, c'est découvrir tout ça, la puissance du conte, en fait. Et c'est vrai que en Afrique, y a cette parole que j'avais reçue... On dit que la parole là-bas est bonne que si elle est partagée. Et on dit aussi que la parole est comme un fruit dont l'écorce est le bavardage, la chair l'éloquence, le noyau le bon sens. Ça, c'est une petite phrase qui a été citée par Amadou Mpateba, mais une phrase qui est, voilà, dans le monde de la tradition orale africaine. Et ce bavardage, il est très important en Afrique. C'est la palabre. Il faut pouvoir discuter, écouter les avis.
Donc ça, c'est l'écorce.
C'est l'écorce. Ensuite, il va y avoir une partie de la parole qui va être dans l'éloquence. Ça va plus loin. On n'est pas dans cet aspect extérieur. Donc, on va aller plus loin. Mais l'éloquence en elle-même, c'est pas elle qui peut donner naissance à quelque chose de
différent. Ça, c'est le fruit. Ça a bon goût. C'est plaisant.
C'est le goût de la chair.
Mais c'est pas le noyau.
C'est le noyau qui est important. Ce qui va nourrir la vie. Ce qui fait que c'est un savoir. Il va donner naissance à quelque chose. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Donc, toutes ces petites phrases qu'il y a aussi, qui vont nous guider. Donc, moi, j'ai reçu ces phrases-là. Un peu comme celle d'Henri Gougaud dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, comme des rencontres qui m'ont posé des questions, moi, dans mon fonctionnement humain, à tous les niveaux, en tant qu'homme.
Donc, ça vous a permis de mieux vous connaître vous-même, mais pour mieux être en relation avec les autres. Parce que vous avez passé une partie de votre temps, de votre vie, à écouter les autres. Vous êtes conteur, et quand vous commencez à parler, vous pouvez parler pendant des heures, ou quand vous êtes sur scène, vous captez l'attention de ceux qui sont venus vous écouter. Mais vous avez passé des heures, des jours à écouter. Pour écrire ces mille et une vies, vous avez tendu votre oreille à des hommes, des femmes, on va dire de peu. Mais il n'y a rien de méprisant quand je dis ça. Vous avez donné la parole à des ouvriers, à des chômeurs, à des prisonniers, à des migrants, et vous les avez écoutés. Et j'aimerais qu'on parle de cet aspect-là, parce que le conteur que vous êtes a été aussi oreille déployée, tournée vers les autres. C'est intimement lié chez vous, ces deux dimensions-là, de conteur qui va parler, mais de celui qui sait s'arrêter pour écouter.
Cette façon, comme je dis toujours, de marcher sur mes deux jambes, mes deux pieds. Le récit de l'autre, il m'amène vraiment aussi dans mon humanité profonde. Le conte nous rend humains parce qu'il nous rassemble, il nous met dans une histoire commune, dans un moment commun. Mais connaître l'histoire de l'autre, là aussi, ça nous éclaire énormément. Là, il y a une lumière. Je me rappellerai toujours, j'ai fait un projet dans le Nord, un des premiers projets de collectage, un gros projet qui s'est fait à Grande-Synthe pendant 3 ans. Et il y a un homme qui tournait autour de moi et j'avais distribué un journal de paroles qui s'appelait Parole d'îlot.
Un journal de paroles, qu'est-ce que c'est?
Alors, un journal de paroles, en fait, quand je fais des récits, il a fallu créer des outils pour transmettre. Donc, les premiers outils, j'ai créé parce que moi, j'avais mon sac avec des textes dedans. Mais j'étais là avec mes histoires à moi. Et des fois, le soir, je disais à des gens, tiens, j'aimerais qu'on partage certains récits de gens que j'ai rencontrés. Alors, ça m'arrivait à la fin d'un repas ou d'inviter des gens, puis on écoutait, c'était pas des contes. Mmh. Et je faisais lire les gens. Et c'est devenu une façon de faire. Je me suis dit, finalement, je suis facteur. Le facteur, c'est celui qui fabrique, c'est celui qui distribue. Mmh. Donc moi, ce facteur de mémoire, ça m'a bien plu. Et j'ai créé un outil qui s'appelle Graines de mémoire, qui sont des récits. Donc c'est un courrier. Et il y a écrit Graines de mémoire, j'en ai là, je pourrais vous en donner. Et chaque récit a un titre et puis il y a un prénom. Et c'est une personne que j'ai rencontrée à un endroit au moment de la vie. Et cette histoire, pour moi, elle est éternelle, elle est universelle. Donc, ça va raconter justement des femmes qui apprennent une langue, c'est pas leur pays, et puis elles racontent un peu leur vie, plein, des milliers, parce que là, c'est des milliers d'histoires.
Mais c'est pour ça, j'ai utilisé cette expression de gens de peu ou de petite vie, des gens... En fait, vous n'avez pas interviewé des gens connus, des gens célèbres. Vous écoutez des gens qui, souvent, vous disent « Oh, mais moi, j'ai rien à dire. Ouais. »
Ouais, souvent, c'est vraiment la phrase « j'ai rien à raconter, mais rien arrivé d'extraordinaire ouais. ». Ouais. Et bien sûr...
Et c'est ce rien que vous écoutez.
Ben, on n'est pas là pour rien. Mmh. Ouais, ouais. C'est le titre de ce livre. Et le mot « rien », je crois que c'est ce qui définit mieux, justement, cette idée qu'il y aurait une humanité qui vaudrait rien, parce que c'est ce que, aujourd'hui, certains, quelque part, mettent en œuvre. Et
vous vous dites, c'est pas vrai.
Non,
personne ne vaut rien.
Ouais. Et puis, justement, si on reprend le soufisme, si on reprend l'ami Nasreddin, rien, c'est la base. Il y a une petite histoire qui est cet homme qui a un clochard, un mendiant, puis il y a un chien qui lui pisse sur les pieds, et tout d'un coup, ce chien qui le voit, eh bien, il se relève et il traverse la ville et il rentre dans le palais du roi, et ce roi, en fait, c'est un tyran qui fait exécuter toutes les semaines des femmes et des hommes, et ce jour-là, c'est jour de justice. Donc, cet homme, il traverse, il déchire la foule, il y a le trône, il y a le roi qui arrive, il se hisse sur le trône avant le roi, il s'assoit sur le trône, et le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais moi, je suis à ma place. Il dit, mais non. Il dit, c'est à ma place, parce que moi, je suis le roi. Et lui, il dit, mais moi, je suis au-dessus de vous. Il dit, mais au-dessus de moi, il n'y a que Dieu. Il dit, mais moi, je suis au-dessus de Dieu. Et là, on entend les sables, il y a un silence. Il dit, comment tu oses blasphémer? Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Et l'homme, il dit, justement, moi, roi, je ne suis plus rien. Donc, c'est ça. C'est cet endroit-là. C'est que là, il est au-dessus du roi. Cette parole, elle est reine. Moi, j'ai remarqué chez des gens, j'ai des paroles, des formes de paroles, une façon de dire les choses que je peux pas trouver, justement, chez d'autres personnes. Il y a des joyaux, il y a des pépites dans l'oralité des gens.
Et c'est ça que vous cherchez,
ouais.
Ces pépites. En fait, vous êtes une sorte d'archéologue. Vous cherchez, vous creusez, pour trouver des vestiges de vie qui pourraient être enfouis et qui sont encore là, bien vivantes.
C'est un peu ça, il faut creuser. En Afrique, on dit il faut creuser. Il y a des paroles, j'utilise un outil qui s'appelle parole de vie, ce sont des symboles africains d'Afrique de l'Ouest, j'ai eu la chance de recevoir aussi ces...
Mais vous accueillez tout le monde, vous jugez personne. Vous êtes allé travailler en prison aussi, ouais, pour rencontrer des prisonniers, écouter leurs paroles. Et là aussi, on peut se dire, waouh, ces gars-là, ce qu'ils ont fait, c'est ce qui les a emmenés là en prison, et c'est bien fait pour eux. Et vous, vous êtes là à les écouter?
Mais en fait, c'est assez étrange parce que moi, j'ai pas voulu y aller. On m'a proposé d'y aller, comme souvent. De toute façon, tous les endroits où j'étais, c'est pas des endroits où je voulais aller. Moi, je pensais des fois aller des endroits, j'ai jamais été. Mais les endroits où j'étais, c'est des endroits où on m'a dit, tiens, j'aimerais que tu viennes. Donc, si quelque part, il y a un appel. Donc, je me suis retrouvé là en prison, par hasard. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, il y a des rencontres, encore une fois. Et en prison, le premier jour que j'ai passé, je dis, mais je reviens pas, j'annule le projet, je vais appeler la drague, je leur dis, moi, c'est fini. Et puis ce soir-là, je me suis parlé à moi-même, je lui dis, mais attends, Ludo, c'est trop facile.
Parce que c'était trop dur.
C'était dur pour plein de trucs. Je me rendais compte qu'avec les détenus, voilà, on était dans une relation de merde. Les mecs, ils étaient pas là pour moi, ils étaient là pour sortir de la tôle, pour ci, pour ça. Puis il y avait une relation très, très dure avec le monde pénitentiaire, les surveillants qui peuvent être vraiment, et donc faut se taire. Faut vraiment tout accepter, t'as rien à dire. Si tu commences à râler, à machin, tu t'empêches de rencontrer les autres. Donc là, vraiment, j'ai dit non, va au bout. Et quand je suis arrivé au bout de cette première expérience, c'était il y a 10 ans, et puis maintenant, c'est la 10e année, là. Je continue, là. On m'a reproposé un projet à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la plus grosse maison d'arrêt d'Europe. Et à chaque fois, maintenant, voilà, je franchis ces 9 portes, qui s'ouvrent et qui se ferment avant d'arriver devant ces hommes ou ces femmes. Et moi, j'ai envie d'aller le plus loin possible humainement avec eux. Et je leur dis toujours, voilà, je vais donner le meilleur de moi, j'attends le meilleur de vous.
Et ils sont réceptifs?
Ils sont méfiants.
Au début.
Ah oui, alors le compte, ils sont toujours très surpris, ça t'attend surtout pas à ce que quelqu'un vienne. Mais moi, j'arrive pas en disant, je vais vous raconter une histoire. J'arrive en posant des choses et j'attends. C'est-à-dire que, par exemple, je vais poser, bon, c'est pas, je pense pas n'importe quoi. Je vais poser un tissu où dessus il y a des choses qui sont représentées. Si je le mets sur la table, hein, entre nous deux, à un moment, vos yeux vont regarder le tissu. Et vous allez me regarder après. Et à un moment, vous allez me demander ce que c'est. Vous allez me dire, ouais, parce que souvent ils me disent, ouais, monsieur, on va jouer, au marabout, ou vous allez nous marabouter, ou vous allez, Alors, je leur dis, c'est un peu ça, mais d'après vous, c'est quoi, ça? Alors, j'ai dit, mais ça, d'après vous, ça vient d'où, le tissu? Alors, ils me disent, Égypte, Inde. Et jamais ils trouvent au début. Et à un moment, il y en a un qui dit, Afrique. Je dis, oui, ça vient d'Afrique. Mais quel pays d'Afrique? Alors là, ça cherche, ça tâtonne. Puis là, il y a un jeu qui commence. On est dans un jeu. Et une fois que la porte est ouverte, ben, on peut jouer ensemble. Et ce jeu de curiosité, hein, pareil, il y a une parole qui m'avait été donnée par un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ngon. Je vais juste vous donner son nom entier, c'est Ngon Dingam Lemgoto Alram Gondolejim. Son nom entier, ça signifie, s'il n'était pas né, mes parents seraient encore orphelins. Et cet homme, c'est un grand monsieur que j'ai rencontré au Burkina Faso. Il répétait sans arrêt, c'est la curiosité qui amène le savoir. C'est la curiosité qui amène le savoir. Donc, nous, on a un endroit où il faut qu'on crée juste ça.
Il y a une histoire que vous avez racontée un jour sur une rencontre avec un prisonnier liée à la notion de, finalement, tout a un sens. Et ce qui m'arrive est bon, même si ça donne l'impression que c'est vraiment pas bon. Vous pouvez nous la raconter?
Alors, c'est oui, compris. C'est la première rencontre avec un détenu en prison. À l'époque, je travaillais au musée Branly. On travaillait avec la PJJ. On m'a proposé d'aller à la maison de la santé à Paris, donc j'y vais. Et je raconte, c'était filmé, c'était prévu justement dans le cadre d'un projet pour qu'il y ait des comptes, que ce soit pour les familles qui se viendraient dans la prison avec des enfants, bon, peu importe. Et il y avait une quinzaine de détenus qui étaient là. À la fin, les détenus rentrent chez eux. Et il y avait un détenu qui attendait, qui était sur le coin et qui est venu me voir. Et lui m'a dit, mais tu t'appelles Souliman? J'ai dit, ouais. Il me dit, tu sais qui c'est, Souliman? J'ai dit, ouais, c'est moi. Il dit non, il dit c'est le prophète. J'ai dit oui, Souliman c'est Salom chez les juifs, et Souliman chez les musulmans. Il dit oui. Il dit tu connais Souliman? Et là il commence à me raconter des histoires. Voilà, il faudrait une heure d'émission, mais c'est passionnant. Et à un moment il me raconte ses histoires sur Souliman, sur le bien et sur le mal, parce qu'à un moment il raconte une histoire du fourmi, et à un moment par jeu Souliman se rend invisible, Salomon il disparaît et il enlève un grain de blé, et les fourmis qui sont là, qui ramenaient les grains de blé, elles vont suspecter l'une des leurs, et comme la fourmi a dit mais je l'avais mis là, et les autres disent mais si tu mens en plus, et donc là elle le juge et elle le tue aussitôt, et Souliman il se met à pleurer. Et dans l'histoire que me raconte cet homme qui s'appelle Afid à la prison de la santé, eh bien là, les fourmis regardent vers le ciel et disent « Mais qui est là ?» Il n'y a pas de nuages, c'est pas la pluie. Et là, Souliman, il tourne sa bague, il revient visible. Et il raconte « C'est moi qui ai volé le grain de blé. » Et les fourmis lui disent « Mais pourquoi t'as fait une chose pareille ?» Souliman, il répond bah, « Parce que je voulais savoir. Mais tu te rends compte, à cause de toi, on a tué l'une des nôtres, alors qu'elle était innocente. Et toute notre vie, on va devoir vivre avec ce poids sur notre conscience à cause de toi. Tu te rends compte le mal que tu as fait ?» Et Afid, il s'arrête, il me dit, tu te rends compte, Souliman, c'est un sage, c'est un prophète. Alors lui, s'il a fait le mal, nous qui ne sommes de simples hommes, imagine tout le mal qu'on peut faire sur Terre. Et ça a commencé comme ça. Et l'histoire qui va venir, puisque c'est celle qui est libératrice, c'est qu'à la fin, je lui dis, mais pourquoi t'as pas parlé devant tout le monde? Il dit, les autres peuvent pas comprendre. Et il me dit, mais tu sais, il y a un conte qui dit tout. C'était au moment où il devait partir, je demande au surveillant si on peut avoir 5 minutes. Là, un surveillant vraiment sympa, il dit d'accord. Et là, il me raconte l'histoire d'un roi qui avait un esclave. Et à chaque fois qu'il me parlait, Afid, il me disait, t'as compris, mais toutes les phrases, t'as compris. Je dis, oui, j'ai compris. Et il continue, il parlait super vite. Et à un moment, il raconte l'histoire du roi, qu'un esclave, cet esclave, il va partout, va le roi. Et à un moment, le roi, il en a marre. Et des fois, il lui dit, mais pourquoi tu me suis toujours? Mais c'est pour ton bien que je te suis. Et puis, à un moment, à chaque fois que le roi, il est malade, son esclave lui dit, mais c'est pour ton bien que t'es malade. Et le roi lui dit, mais non, je suis malade, c'est pas pour mon bien. Mais tu dis n'importe quoi, tu m'énerves. Et l'esclave, toujours, il dit, c'est pour ton bien. Tout ce qui lui arrive, il dit au roi, c'est pour ton bien. Et un jour, le roi, il prend un couteau. Et maladroitement, il se coupe la chair de la main, le sang qui coule après avoir cousu l'orange. Évidemment, l'esclave, il vient, il me fait un pansement, il dit, c'est pour ton bien, roi, que tu t'es coupé. Le roi, il dit, j'en ai marre. Arrête de dire, c'est mon bien, je vais me couper, c'est n'importe quoi, attrapez-le, j'étais là en prison. Tiens, je te jette en prison, c'est pour ton bien. Et voilà, l'esclave en prison. Et le roi est toujours en colère, il est en colère contre lui, il s'en veut. Et pour passer sa colère, il prend un cheval, il part seul, et il galope, là. Et Afid, il me raconte, t'as compris? J'ai dit oui, j'ai compris, il continue. Alors le cheval, il galope, il va en forêt, et puis à un moment, le roi, il se perd dans cette forêt. Il cherche son chemin, il se perd encore plus, il s'égare, et là, il voit un homme avec une espèce de bâton, avec plein d'ossements, tout ça, et il demande à l'homme son chemin, et l'homme, il fait un geste avec son bâton, et les os s'entrechoquent, et le roi, il sent le danger, il veut s'enfuir, il est trop tard. Hop, on le capture, on le ligote, on l'amène là dans la tribu, le tambour machin, et il va être sacrifié. Et le prêtre arrive pour le sacrifier. Et avant de le sacrifier, on le déshabille, il doit être nu devant le dieu de cette tribu. Et lorsqu'on le déshabille, on remarque en enlevant le bandage que le sang continue à couler de la main. Et là, on se rend compte qu'il est impur, que son sang a déjà été versé. Et on le libère, on lui rend sa liberté. Il retrouve le chemin, il va au château et il se rappelle la parole de l'esclave. Et il le fait libérer et dit « T'avais raison. Si je m'étais pas coupé la main, il m'aurait tué. Donc c'est pour mon bien. C'est pour mon bien que j'ai coupé la main. T'avais raison. » Et l'esclave, il dit, tu vois, je te l'avais dit. Et il lui dit, ouais, mais toi, je sais que j'étais en prison, c'est pas pour ton bien. Alors, il dit, ben si, regarde. Eh, partout où tu vas, je suis. Là, si t'avais été en forêt, moi, j'aurais été avec toi. Je t'aurais suivi. Mais toi, ah bah, tu sais, il t'aurait pas sacrifié, mais moi, il m'aurait tué à ta place. Tu as compris? La prison m'a sauvé la vie. Et Afid me regarde et il me dit à la fin, t'as compris? La prison m'a sauvé la vie. Donc cette histoire-là, c'est une histoire importante parce qu'elle est reliée. D'ailleurs, je vais juste raconter cette anecdote qui est extraordinaire. Il y a 3 ans, j'étais à Fresnes, j'ai fait une soirée, pas à la prison, mais à la MJC. Et il y a un homme qui était là dans la salle. Il me dit à la fin, monsieur, est-ce que vous avez le livre avec l'histoire de T'as compris? Je dis oui, elle était là, il est là le livre. Alors il me dit, je le veux. Il prend le livre et il me demande d'écrire un mot. J'écris un mot. Il dit, vous savez, c'est mon histoire. Je dis, mais c'est un jeune qui avait 35 ans, ouais, c'est ça. Il dit, en fait, moi j'étais un fauve, j'étais en prison. Et en prison, on m'a mis au mitard, j'étais sans arrêt au mitard. Donc c'est rien. Et il dit, le seul truc que j'avais le soir, c'est que j'écoutais par les voix qui venaient. Et il y avait le gardien qui écoutait la radio. Il y avait une émission. L'émission sur France Inter, où je parlais. Et vous j'ai raconté cette histoire, t'as compris? Il m'a dit, cette histoire, elle est rentrée dans ma mémoire. Et je me suis dit, mais moi aussi, la prison va me sauver la vie. Il dit, à partir de là, ma vie a changé, je suis sorti de prison, je suis plus jamais retourné, je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai raconté cette histoire. Je trouve ça extraordinaire.
Ludovic Suliman, j'aimerais qu'on parle de cette Bretagne où nous sommes. Je vous rencontre ici à Erquy, où vous vivez maintenant. Je vous ai connu en voyant un spectacle à quelques kilomètres d'ici, où vous récoltez la mémoire des Bretons, la mémoire des vieux Bretons. Alors, on l'a dit au début, hein, vos racines sont là, une partie de vos racines familiales sont ici en Bretagne. Mais comment vous faites pour récolter aujourd'hui cette mémoire des anciens, cette mémoire des Bretons? On a l'impression que, allez, la modernité est passée par là. Tout a disparu. Comment vous travaillez, en fait?
Bah, très simplement, hein. Les gens, ils ont plein de choses à raconter si on veut bien les écouter, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc moi, tout a commencé, mais c'est un peu comme partout. Moi, je suis ici, dans cette maison. Bah, nous, on a eu un coup de cœur, mais on la connaît pas, cette maison. Puis il y avait un monsieur qui s'arrêtait, un vieux monsieur avec sa canne, il s'arrêtait juste devant la maison. Puis il regardait en bas vers la plage, puis il faisait demi-tour. Alors on lui disait bonjour. Puis c'est François, le voisin, puis à un moment, j'ai commencé à lui parler. Et je lui dis, bah, pourquoi vous allez pas... Il dit qu'il s'arrêtait là pour voir la mer, en fait, la marée haute. Donc, il calait son arrivée au moment où la mer est haute. Parce que pour voir la mer, faut qu'elle soit haute, là. Sinon, tu vois pas la mer, tu vois que la plage. Et il me raconte ça. Je lui dis, mais pourquoi vous descendez pas plus bas? Il me dit, bah, moi, je peux plus remonter la côte à mon âge. Et donc, ce vieux monsieur, presque 90 ans, à un moment, il m'a raconté toute l'histoire de cette maison. Il me dit, ici, il y avait le marquis de Bicqueneux dans la maison où tu vis. Je dis, ah bon, il y avait un marquis dans la maison? Il dit, non. Bah, c'est un gars, il passait son temps à rien faire. Il vivait avec sa mère. Il était là comme un marquis avec un brin d'herbe entre les dents. Et puis il m'a raconté plein d'histoires, les noms des rochers, plein de choses. Et un jour il m'a dit, mais tu sais Ludo, on est en train de perdre notre âme. Alors je dis, pourquoi vous dites ça François? Il dit, parce que c'est vrai, notre pays perd son âme. Toutes ces histoires que je connais, les noms des rochers, quand je serai plus là, ben, personne ne les connaîtra. Alors je lui ai demandé de m'apprendre le nom des rochers, qui sont ici à Carroual. Donc c'est parti de là, mais comme partout ailleurs, quand je récolte, parce que c'est cette récolte humaine, elle est noble, ce grain qu'on met dans le grenier, c'est pour aussi ensemencer nos esprits plus tard. Je dis pas tous les esprits, parce qu'on me dit des fois, ouais, ça intéresse pas les jeunes, tout ça. Moi je dis toujours, c'est pas vrai, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Moi je vois bien que les gens, ils aiment les histoires. Quand je vais en prison, les gens, ils aiment les histoires. Quand je raconte à ces femmes qui parlent pas le français des contes, elles aiment les histoires. Je raconte à des lycéens, ils aiment les histoires. Tout le monde aime les histoires.
Mais vous aimez les raconter aussi, parce que ce que vous faites de collecter, c'est le travail des ethnologues, le travail des historiens, le travail des sociologues. Mais vous, vous le faites d'une manière très particulière, qui est celle du conteur. Il y a de la chair. Moi, je vous ai lu là dans Les Mille et Une Vies, par exemple, mais je vous ai entendu en spectacle. Vous y mettez de l'humain, il y a beaucoup d'humanité. C'est pas un travail d'ethnologue que vous faites.
Ben non, je suis pas scientifique, moi je suis un être humain, et c'est en tant qu'humain, moi ce qui m'intéresse c'est l'humain, d'ailleurs le projet que je fais depuis un an là, où j'ai travaillé sur être humain, avec des collégiens, avec un groupe d'adultes handicapés psychiques, avec un groupe de personnes âgées, avec différents groupes, je trouve ça extraordinaire ce qui sort sur ça veut dire quoi être humain. Et ça rejoint aussi plein de paroles de gens, donc cette idée de cultivons notre humanité, elle est pas mienne. Et je pense à Jacquard, moi c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, dans son engagement pour la paix dans le monde. Il allait dans les classes, il parlait, c'est cet homme qui a écrit L'Éloge de la différence, pour comprendre qu'on n'y a pas de race, il n'y a qu'une grande espèce. Et avec Hubert Reeves et Testard, ils avaient vraiment cette idée de humaniser le monde, et que notre monde qui se déshumanise, pour l'humaniser, il fallait trois choses. Comprendre le monde par les connaissances scientifiques, embellir le monde par la beauté, la création artistique, et que ce monde soit un monde d'empathie, qu'on puisse justement se mettre à la place de l'autre. Et ces trois messages, ces trois verbes, ces trois actions, je crois qu'elles sont là, quoi. Moi, elles me guident un peu aussi, souvent, je fais des ateliers. Moi, ce que je transmets, c'est on s'engage humainement. Et on a besoin d'outils. C'est pour ça que moi, mon passé ouvrier m'a appris, et mon passé militant m'a appris à créer des outils, à les forger, à ce que ces outils soient solides, et à pouvoir les transmettre à d'autres pour qu'ils utilisent à ta place. Parce que le but, c'est pas de faire pour, c'est de pouvoir à un moment transmettre les outils que tu as créés. Aujourd'hui, c'est mon rêve, je dirais, de transmettre au plus grand nombre ces outils parce qu'ils peuvent aider d'autres, quoi.
Il y a un mot qui est au cœur de ce que vous faites. Je pense que Henri Gougaud, encore lui, l'a bien compris. Dans la préface de votre livre, il écrit ceci. Voilà déjà de longues années que Ludovic Suliman passe le plus clair de son temps auprès des pauvres, des oubliés, des laissés pour compte, des gens des cités, comme on dit aujourd'hui. Non pas pour les éduquer, les assister, leur proposer des plans de terrain de basket ou des salles polyvalentes, mais pour les écouter, réveiller leur mémoire, allumer leur regard, parler avec eux des choses simples, de la vie, des soucis, des bonheurs. Mais pourquoi fait-il cela? Pour presque rien. Par amour.
Ah oui. Hein. L'amour, c'est la force, vraiment. En plus, c'est un symbole que dans les symboles africains dont on parle, qui réunit tout, quoi.
C'est le noyau, c'est le cœur.
Oui, l'amour, c'est quelque chose de... Moi, je vois les enfants, ce qu'ils disent sur l'amour, c'est puissant, quoi. Je suis toujours émerveillé de la parole des enfants sur l'amour, leur façon de parler de l'amour. Il y a une jeune fille, là, au collège, elle s'appelle Chloé, là, en sixième. Elle a fait un dessin, parce qu'ils choisissent trois symboles pour être humain. Et les trois symboles qu'elle avait représentés, souvent en forme de dessin, mais qui étaient très beaux, avec des nuances de bleu, là, qu'elle avait choisi. Il y a un symbole, c'est la lumière qui était centrale. De part et d'autre, il y a les deux symboles qui forment l'amour, ces deux forces avec un cercle et un point. Et puis tout autour, elle avait dessiné la terre. C'est un symbole qui représente la terre. Et après, je leur proposais de réfléchir à une parole qui reliait ces trois symboles. Et la parole qu'elle avait choisie, c'est « Il faut que l'amour illumine la terre ». Alors après, je lui ai proposé d'aller plus loin. Donc, pourquoi il faut que l'amour illumine la terre ? Elle aurait dit « On vit dans un monde de guerre, entouré de guerre. On a peur que la guerre arrive ». Et elle dit, vivre dans un monde en paix, est-ce que c'est possible ? Elle pose la question comme ça, hein. C'est sa parole. Elle dit, rien n'est impossible, mais pour cela, il faudrait qu'on s'y mette tous ensemble aujourd'hui. Et elle a mis trois points d'exclamation. Donc cette parole de cette gamine, de Chloé, voilà, moi je trouve ça extraordinaire que ces enfants, et ils ont vraiment des paroles fortes, mais il faut les amener à cet endroit de la parole. Parce que souvent, bah, on a commencé... notre échange tout à l'heure sur cette parole d'Henri Gougou, on ne parle à l'autre que dans l'endroit où on est à l'intérieur de soi. Mais je pense que c'est ça. Le but, c'est pas de parler uniquement et d'écouter, c'est d'arriver à amener l'autre et s'amener soi à cet endroit où la parole, cette parole est possible. Voilà. Donc, parole d'amour, en fait. Mais parce que tout d'un coup, on est à un autre endroit plus profond. En Afrique, on dit que les symboles que j'utilise, d'ailleurs, ils servent à dire ce que tu ne peux pas dire avec les mots en premier. Par le dessin, donc c'est le dessin qui parle, et ensuite à faire parler le dessin. Et avec les symboles, si tu veux, tu peux creuser au plus profond de toi. Et tu peux même aller là où tu ne sais pas. Donc c'est vraiment un outil de connaissance. Et les enfants s'en saisissent incroyablement, en prison identique. Alors moi je marie, c'est vrai, la parole des contes à la parole des récits, tout ça c'est lié en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Ludovic Souliman. Merci de nous avoir accueillis chez vous pour nous parler de votre expérience de conteur, mais d'homme avant tout, d'homme. Et un beau chemin de vie qui a été le vôtre. Merci de votre accueil. Je renvoie à ce livre, Les Mille et Une Vies à déguster, que vous aviez publié aux éditions Albin Michel il y a quelques années, mais qu'on trouve encore. Et puis, j'encourage vraiment tous ceux qui verront votre nom quelque part lors de vos tournées, hein, pour aller voir un de vos spectacles. C'est pas le mot, un moment de vie partagé avec vous. Vraiment, qu'il ne manque pas cette expérience-là. Merci, Ludovic Souliman.
Merci à vous.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.